Rebonjour ou bonjour à toutes et à tous. Donc, vous êtes sur Graphite 94.9 ou Graphite.9. Je suis Stéphane Crozat et je suis en studio avec Archibald, Laura, Hugo, Inès, Nines, Barnabé et Lou. Bonjour à vous, rebonjour. Enfin, je ne sais pas si on se dit bonjour trois fois par jour. Bon, on verra bien. Écoutez, vous pouvez dire bonjour aux gens si vous voulez. Okay. Donc on a pris aujourd'hui l'antenne sur Graphite pour vous faire une restitution de projets menés dans le cadre du cours Lautéquisation et Numérique de l'Université de Technologie de Compiègne. Les étudiants et étudiantes qui vont vous présenter leurs projets ont travaillé à concevoir ou reconcevoir un outil ou un service avec l'objectif de se préoccuper avant tout des impacts socio-écologiques et de la complexité technique de leurs projets en imaginant diverses alternatives qui permettent de minimiser ces impacts ou de faire advenir d'autres imaginaires technologiques. Alors on a vu juste avant le projet Small is Beautiful qui nous parlait d'automobile. On découvrira d'autres types de projets aujourd'hui et puis également la semaine prochaine. Je vais juste rappeler très rapidement le processus suivi dans le cadre de l'UV1. Vous avez commencé par faire une veille, un travail de recherche documentaire. Ensuite, une phase d'idéation. Vous avez imaginé différentes possibilités de maquettage en racontant des petites histoires, d'analyse fonctionnelle avec un modèle valeur, levier, tension, d'évaluation réflexive. Vous avez une quinzaine d'outils à votre disposition. Et puis enfin, une phase de publication avec un site web auquel on peut accéder depuis l'adresse lonum.fr, un poster. Et puis, cette émission de radio est en quelque sorte la dernière brique à votre travail. Voilà pour cette présentation générale. Donc, à présent, c'est Hugo et Inès qui vont donc nous présenter le projet Microscope Low-Tech ou Microscope Low-Techisé. Si c'est OK pour vous, on peut démarrer. C'est parti.
Bien, donc je remercie Monsieur Crozat pour cette superbe introduction et surtout j'en profite pour vous dire bonjour une quatrième fois de la part du projet Microscope Low-Techisé. Donc qu'est-ce que c'est notre projet concrètement? L'objectif, ça va être de low-techiser un microscope de smart scanning qui est donc déjà existant et qui est fait à partir d'une imprimante 3D détournée d'un ordinateur Raspberry Pi, qui est un nano-ordinateur monocarte qui est équipé d'un processeur ARM et d'une caméra. Ce microscope s'appelle l'Enderscope et il a été développé par le laboratoire de recherche de l'université d'Angers, dont le suiveur de ce projet, M. David Rousseau, fait partie. Alors ce projet, de premier abord, il peut paraître tout à fait loufoque, mais tenez-vous bien, il est prometteur. On va déjà procéder à quelques définitions, parce que sinon on ne va pas comprendre grand-chose. Le smart scanning, c'est un procédé d'analyse d'échantillons microscopiques qui permet de faire des prises de vue en très haute définition, donc 1080p, en une vingtaine de minutes. L'imprimante 3D détournée, elle va servir à maintenir et à assurer les déplacements de la caméra sur la zone d'échantillon. Et l'ordinateur dont je vous ai parlé, ARM, tout ça, ça va prendre en compte ces données et il permet de faire tourner un algorithme d'analyse qui va lui projeter une image traitée sur l'écran pour que le chercheur puisse analyser tout ça. Ce procédé, il est notamment utilisé dans la mesure d'un taux de microplastique dans un échantillon. C'est des minuscules morceaux de plastique qui mesurent moins de 5 mm et qui sont tout à fait polluants. Et notre étude, elle a donc mené à pas mal d'idées qu'on va essayer de vous démontrer tout au long de cet oral. Et en général, on s'est concentré sur des développements communautaires, l'amélioration de la réparabilité, la publication de documents en lien avec ce microscope sur une plateforme open source. Et on a tenté de faire évoluer le public ciblé en apportant des modifications afin que le microscope puisse être un outil pédagogique. Donc cette low-techisation, elle va passer par les trois grands piliers, la soutenabilité écologique, la responsabilité sociale et la convivialité technique. Toutes ces notions ont amené un ensemble qu'on espère cohérent, qu'on a développé sur notre site internet lonum.fr et qu'on vous invite évidemment à voir. Et je vais passer la parole à ma camarade Inès.
Alors vous l'aurez compris, l'élément principal du microscope, c'est une imprimante 3D. Elle sert de support au smart scanning, mais elle peut également servir à l'impression de pièces 3D utilisées pour fabriquer le microscope. Cette impression 3D permettrait principalement d'avoir des pièces normalisées. Le problème réside cependant dans l'utilisation de plastique pour l'impression 3D. Et donc pour pallier à ça, on a étudié plusieurs méthodes d'impression avec du bois, voire de l'usinage ou encore des encres 3D alternatives. Donc il faut d'abord savoir que l'impression 3D, c'est une méthode avec addition de matière. Elle utilise des matériaux bruts, puis elle imprime une pièce couche par couche à partir de ces matériaux fondus à haute température. Au contraire, l'usinage avec commande numérique, c'est une méthode avec soustraction de matière. Donc on part d'un bloc pour arriver à la pièce finale via différents usinages comme le fraisage ou le tournage. Le principal inconvénient va résider dans le fait que tous ces usinages, ils nécessitent une intervention humaine, puisqu'en fait, les machines qui sont utilisées sont dirigées par des personnes qui sont qualifiées. Et du coup, on a moins d'autonomie qu'avec de l'impression 3D. Et du coup, pour allier l'avantage du bois et de l'impression 3D, certaines études réalisées par l'entreprise Mechanica, qui est spécialisée dans les solutions hardware, ont montré qu'il était possible d'utiliser des filaments de bois, de bambou ou de liège. On a aussi une autre étude qui est un mémoire réalisé par Oussama Ben Nasser dans le cadre de sa maîtrise en ingénierie à l'Université du Québec, qui s'est penché sur l'utilisation de biocomposites à base de résidus industriels forestiers polymères, tels que par exemple l'acide polylactique. C'est un polymère biodégradable qui va être obtenu par une transformation de l'acide lactique à travers la fermentation de sucre. Et du coup, l'utilisation de ces résidus industriels forestiers, elle permettrait non seulement d'utiliser un matériau qui est biodégradable et naturel, mais surtout de donner une utilisation à ces produits secondaires qui sont sinon des déchets. Donc cette étude, elle a donné des résultats plutôt encourageants, par exemple en mélangeant de l'acide polylactique à de la lignine, donc c'est une molécule qui confère au bois sa rigidité. Il est montré que l'impression 3D par extrusion de matière, elle a eu des bons résultats et qu'elle permettait l'obtention de pièces fonctionnelles. Il est également montré que l'incorporation de 10% de lignine va améliorer le module de traction et de flexion des biocomposites. Donc ce sont des matériaux qui sont constitués d'au moins deux matériaux de nature différente et qui vont utiliser des fibres végétales comme renfort dans des matrices plastiques. Donc ici, ça va correspondre au mélange entre l'acide polylactique et la lignine. Cependant, ce procédé il peut aussi produire des composites qui ont des propriétés mécaniques généralement plus faibles par rapport à ceux qui sont fabriqués par injection. Et pour l'instant, la limite en teneur de lignine elle est de 20% dans le mélange. Sinon, le filament il devient assez fragile et non enroulable. Donc c'est assez prometteur, mais il faut encore faire des recherches dessus. Et finalement, une dernière possibilité que nous avons explorée, c'est l'utilisation d'une encre alternative à celle traditionnellement conçue avec du ciment. Et par exemple, la fabrication d'une encre cimentaire à faible empreinte carbone, en remplaçant du coup 70% du ciment traditionnel par des matériaux alternatifs, tels que le métakaolin et le laitier de haut fourneau, qui présentent une quantité de CO2 émise par tonne 7 fois moins élevée que le ciment traditionnel. Donc c'est une étude qui a été présentée lors d'une conférence internationale francophone nommée « Nouveaux matériaux et durabilité ». Du coup, on a plusieurs pistes qui concernent l'impression 3D, l'usinage et l'utilisation de matériaux biocomposites avec un plus faible impact environnemental qui existe déjà et qui sont intéressantes à creuser dans le cadre de notre projet.
Donc, pour mieux comprendre ce qu'est la lotiquisation, on va vous présenter un court extrait réalisé par Combini sur TikTok de deux membres de l'association Low-Tech Lab et ils apportent un point de vue qu'on a jugé intéressant sur ce qu'est la low-tech, notion à la ressource et à la source de la lotiquisation vue en cours d'IS3.
Les low-tech, c'est des dispositifs incroyablement simples qui peuvent nous aider à aller vers cette transition écologique sans forcément changer de confort de vie.
C'est le best-of de notre civilisation.
C'est ça.
On s'est rendu compte qu'on pouvait complètement réinventer notre manière d'habiter sur la planète, réinventer notre manière de produire notre eau, notre nourriture, de recycler nos déchets, etc. Et du coup, on a voulu combiner plein d'innovations comme ça qu'on avait trouvées dans 25 pays différents et de voir comment est-ce qu'on pourrait vivre de manière plus écologique, mais aussi plus saine, plus épanouissante.
Je vais emprunter une formulation de ma camarade de classe, Laura, qu'elle a utilisée dans son projet avant pour présenter une de nos histoires. Mais cette fois-ci, on va imaginer Sarah, et non pas Siddhartha, qui est technicienne dans une station d'épuration en France. Et chaque jour, elle veille à ce que l'eau rejetée par son usine soit conforme aux normes environnementales. Cette usine, elle utilise du latex dans ses procédés. C'est un matériau qui est tout à fait courant dans l'industrie, mais dont le rejet dans la nature est strictement réglementé. Jusqu'ici, Sarah, elle utilisait une méthode simple pour vérifier le taux de latex dans l'eau. Elle faisait sécher les échantillons et peser les résidus. C'est rapide, c'est économique et jusque-là, c'était jugé suffisant. Mais un jour, il y a des signaux d'alerte qui apparaissent. La faune dans la rivière voisine commence à décliner, des poissons meurent, des invertébrés disparaissent, etc., etc. Et des analyses plus poussées révèlent que le problème vient de microparticules de latex. Trop fines pour être captées par la méthode traditionnelle, invisibles mais bien présentes. Le constat est clair, il faut changer de méthode et l'entreprise n'a pas le choix, la législation est stricte et l'impact environnemental devient critique. Pourtant, elle souhaite éviter d'investir dans un appareil hors de prix et là, à coup de chance, l'usine elle dispose déjà d'imprimantes 3D peu utilisées. C'est ainsi qu'émerge une solution innovante et économique, construire un endoscope. Donc dans le cas de Sarah, il faut maintenant aller plus loin puisque l'endoscope a besoin d'un module optionnel spécifique pour mesurer précisément le taux de latex dans l'eau. Ce n'est pas quelque chose que les chercheurs ont fait en amont. Et donc grâce à la communauté développée autour, elle va pouvoir construire autour de ce microscope justement cette volonté et ça devient une réalité. On va aboutir à un module qui est mis au point en collaboration avec diverses personnes motivées présentes sur les plateformes de partage dont on parlera ensuite. Mais ce progrès, il s'accompagne aussi évidemment de tensions puisque jusqu'ici, cette mesure, elle n'était pas jugée nécessaire et en introduisant un nouveau module, on crée évidemment un besoin qui n'existait pas officiellement avant. Ça soulève la question de est-ce que le progrès ne pousse pas toujours à plus de contrôle, à toujours plus d'équipements ? Est-ce que cette exigence technique au nom de la précision ne risque pas d'alimenter une forme de consumérisme technologique ? Toutes ces questions, elles remettent évidemment en cause la démarche low-tech. Cependant, ce module révèle aussi ce qui était caché. Concrètement et aussi en amont, il permet de mieux voir, mieux comprendre et donc mieux agir. Il représente une valeur de transparence, de maîtrise de l'impact environnemental et il montre que la technologie elle peut être accessible, low cost, mais performante, à contrario du low cost qu'on entend parfois, si évidemment elle est bien pensée. Aujourd'hui, un module pour latex, demain on pourra avoir un module pour intégrer son smartphone à l'écosystème pour mesurer d'autres polluants. L'outil devient évolutif, partagé et co-développé avec les usagers de terrain. Ce petit récit a permis de vous présenter une des nombreuses petites histoires que nous avons écrites pour inscrire nos idées dans le monde réel. Il a aussi permis de mettre en avant la notion de fonction dans laquelle nous avons clairement explicité la fonction remplie par nos idées, ainsi que son lien avec les valeurs, tensions et leviers du processus de low-techisation.
Je vais maintenant vous introduire un nouvel extrait sonore. Donc, le suivant va explorer le rôle crucial que joue l'open source dans l'affirmation de l'autonomie numérique de l'Europe. Elle met en lumière comment les logiciels libres et les technologies ouvertes peuvent renforcer la souveraineté technologique en offrant des alternatives aux solutions propriétaires et en favorisant l'innovation locale et en assurant une meilleure maîtrise des infrastructures numériques. L'extrait s'intitule « Open Source, un levier stratégique pour la souveraineté numérique européenne ». Il a été réalisé par Ophélie Coelho, une chercheuse indépendante en géopolitique du numérique, qui est membre du conseil scientifique à l'Institut Rousseau et à l'Observatoire de l'éthique publique. Et il a été publié sur YouTube le 29 novembre 2022.
C'est parce que l'open source, avant d'être une vision de liberté, comme on parle de logiciel libre en France, c'est avant tout ce que Stallman nomme une méthodologie de développement, c'est-à-dire c'est vraiment Richard Stallman qui fait la différence, le premier, entre logiciel ouvert, open source, et logiciel libre, où il dit qu'en fait, le logiciel ouvert est avant tout une méthodologie de développement. Cette méthodologie de développement, c'est un outil stratégique dont nous pouvons prendre part, en fait, sur lequel nous pouvons prendre part et que nous pouvons utiliser pour conquérir une forme d'indépendance, pas une indépendance surtout, mais une forme d'indépendance numérique, comme le font d'autres, en fait. Et donc c'est assez intéressant de voir.
Un nouvel élément qui est crucial, du coup, c'est la plateforme de partage pour notre projet. Et évidemment, c'était de le rendre open source, c'est-à-dire développé et maintenu grâce à une collaboration ouverte et qui soit disponible pour que chacun puisse l'utiliser, l'examiner, le modifier et le redistribuer librement. Et du coup, pour ça, nous avons pensé à une plateforme de partage d'expériences qui permettrait à tous les utilisateurs de communiquer entre eux via différents serveurs et forums en fonction de la requête. Donc je vais commencer par vous lire un extrait d'une des petites histoires que nous avons écrites pour vous faire du coup découvrir certaines fonctionnalités de la plateforme. Donc tout d'abord, on peut avoir Xavier, utilisateur de l'Endoscope, qui souhaite faire remonter une erreur à l'ensemble de la communauté. Donc Xavier, c'est un chercheur à l'Institut Pasteur qui travaille dans une unité d'urgence en microbiologie. Et la dernière fois qu'il a utilisé l'Endoscope, il a remarqué que le réglage de la luminosité ne fonctionnait plus lorsqu'il utilisait en simultané un module optionnel pour le diagnostic d'une bactérie. Et il souhaite partager ce problème à l'ensemble de la communauté afin de les prévenir d'un dysfonctionnement et aussi pour savoir si quelqu'un d'autre a déjà rencontré un problème similaire et s'il sait le résoudre. Donc pour cela, Xavier se rend sur le site GitLab. C'est un système de gestion de développement collaboratif de projets qui est très utilisé en informatique de logiciels. Et il y en a d'ailleurs à l'UTC, donc gitlab.utc.fr. Et le but serait ici qu'il y en ait un qui soit dédié à l'Endoscope. Et Xavier, qui veut partager son problème, va donc se diriger vers un forum dédié aux erreurs et poster un message en expliquant ce qui ne va pas. Donc Xavier, il a ici communiqué via un forum en particulier, celui qui est dédié aux erreurs. Comme celui-ci, il va exister plusieurs canaux spécifiques. Par exemple, un qui serait dédié à l'organisation d'une collecte de matériaux, un pour des conseils, un pour des nouveaux modules, ou encore un canal qui serait utilisé pour avoir des informations générales. Ainsi, les utilisateurs ils peuvent communiquer entre eux et avoir des réponses qui soient rapides en fonction de leurs besoins. Mais cette plateforme de partage, elle contient pas seulement un forum de discussion, elle pourrait aussi être composée d'un site collaboratif qui vient en support du projet. Et dessus, on pourrait y retrouver plusieurs pages d'informations concernant les composants de l'Underscope, mais aussi différents tutos pour savoir comment le fabriquer, l'assembler, le réparer ou encore pour ses diverses utilisations. Le but, c'est vraiment que chacun puisse y apporter les nouveaux modules qu'il a développés pour en faire profiter toute la communauté. Et les tutos seront d'ailleurs postés sur PeerTube, qui est une plateforme de partage de vidéos libres et accessible à tous. Notre plateforme de partage, elle permet donc à tous les utilisateurs, qu'ils soient étudiants, chercheurs, enseignants, techniciens ou que sais-je, de publier des vidéos explicatives sur l'utilisation du microscope, de faire remonter des erreurs et de participer à l'élaboration de nouveaux plans et codes pour avoir des modules supplémentaires. Et du coup, toutes ces fonctions, elles vont mettre en avant certaines valeurs. Donc d'abord, la convivialité et notamment le partage, qui est l'objectif principal de cette plateforme, puisqu'elle permet de partager à tous des vidéos sur les fonctions du microscope. Mais elle permet aussi d'instaurer du lien entre les humains, puisqu'elle va inciter à la création d'une communauté et donc favoriser un lien social. Cependant, on doit souligner que cette plateforme peut aussi mettre en avant une tension liée au consumérisme et du coup aux besoins, puisqu'en fait l'existence de la plateforme en elle-même va inciter à la publication de contenu qui n'est pas forcément utile. Par exemple, on pourrait avoir plusieurs vidéos de personnes différentes, mais qui auraient un contenu un peu similaire, tel qu'un tutoriel de base sur le fonctionnement des LED. Ou alors on pourrait avoir des tutos qui seraient très précis sur un module en particulier, mais qui ne seraient que peu visionnés car peu utilisés par tous. Donc finalement, cette plateforme, elle entre dans une démarche de commun, c'est-à-dire que la ressource, elle n'appartient ni à une entreprise privée, ni à une institution publique seule, mais plutôt à une communauté d'usagers et de contributeurs qui en assurent ensemble la gestion, l'entretien et l'évolution. Elle serait structurée par une licence libre, mais aussi via des règles d'usage partagé, souvent formalisées dans une charte, qui pourrait encadrer les pratiques en précisant des valeurs communes, donc la liberté, l'accessibilité, l'entraide, des conditions de contribution et aussi des engagements attendus pour les usagers. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Hugo.
Bien, donc merci Inès pour terminer cette présentation de notre projet Microscope Lotéquisé. Je vais vous présenter un outil qu'on a étudié, l'outil SEDLEX. Donc, dans le cadre de l'UV, on a utilisé plusieurs outils d'analyse afin d'évaluer et de critiquer positivement et négativement, pas trop négativement, notre projet. L'un de ces outils, c'est l'outil SEDLEX. Cet outil consiste à partir d'une recherche sur les principales lois et normes sociales et environnementales à identifier et d'identifier celles qui peuvent être actionnées dans le cadre de notre projet. Ainsi, on a posé un cadre clair des normes et labels qui sont obligatoires à respecter et celles qui pourraient être bénéfiques afin de coller aux valeurs d'une démarche low-tech. Petit disclaimer avant de vous exposer nos résultats, on a eu la chance d'assister à une conférence donnée par Marie-Léonie Vernury, qui est actuellement associée au sein d'un bureau de conseil juridique parisien dont elle dirige la pratique environnementale, industrielle et économie circulaire. Cette conférence, elle nous a amené à faire des recherches précises sur le cadre et la réglementation des low-tech en France, à travers notamment le code de l'environnement. Pour les normes et labels obligatoires, on en a étudié 5. Les plus contraignantes sont les normes SGS, système de gestion de la sécurité. Un SGS, il va être caractérisé par une politique, une organisation, des objectifs, des rôles, des responsabilités, des procédures et un dispositif d'amélioration continue. Ces SGS, ils regroupent un ensemble de certifications IS0, International Organization for Standardization. Cette norme, elle nécessite notamment une certification en performance environnementale. En somme, cela veut dire qu'il faut participer d'une façon ou d'une autre aux objectifs de développement durable de l'ONU. Et oui, pour commercialiser un produit en France avec une norme technique SGS, il faut forcément justifier une certaine contribution au développement durable d'une façon ou d'une autre. L'objectif nous concernant est l'éducation de qualité, c'est la formulation tirée du site officiel de l'ONU. Elle signifie plus particulièrement qu'elle insiste, donc l'éducation, à la fois sur l'acquisition et la maîtrise des compétences fondamentales, lire, écrire, compter, et sur le développement des compétences à maîtriser pour assurer un développement plus durable. Dans un second temps, on a tenté de trouver des labels qui pourraient nous permettre de sortir du lot sur le marché et de mettre en valeur notre démarche low-tech, parce que ça nous a quand même pris pas mal de temps. On a notamment remarqué le label NF Environnement, qui est un label français qui valorise les produits ayant été étudiés pour réduire leur impact sur les limites planétaires, sur tout leur cycle de vie. Et on aimerait aussi mettre un petit coup de lumière tout de même sur le symbole low-tech de l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique, qui peut être apposé sur le packaging de tout produit respectant les aspects cités dans le rapport de synthèse de l'ADEME démarche low-tech, qui peut être trouvé sur leur site internet. Notre microscope a ce label en ligne de mire, évidemment. Donc, outre l'outil SEDLEX, en guise de conclusion, on a utilisé plusieurs d'autres outils d'évaluation, tels que l'outil Diamant, qui nous a permis d'étudier les changements que notre projet pourrait apporter dans les relations entre deux États. On a aussi analysé les 7 péchés du greenwashing, qui visent à critiquer certains biais dans notre démarche, comme l'absence de preuves, ou encore et enfin l'outil Effet Rebond, qui tente d'analyser les effets prévisibles ou non de notre projet, et ce qui peut avoir à différentes échelles temporelles. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre site LowTechNUM, et merci à tous de votre écoute.
Merci à tous les deux, merci à Inès, merci à Hugo. Donc vous nous avez présenté votre projet de microscope low-tech, donc un projet que vous avez mené en collaboration avec David Rousseau de l'Université d'Angers ce semestre. Et comme tu l'as dit, on peut retrouver à partir de lonum.fr et bien tout le détail sur tout ce que vous avez réalisé ce semestre. Alors on a une première question qui va nous être posée par Laura en studio. Laura, si tu veux bien poser ta question.
Déjà, merci pour la présentation, c'était super. Donc, vous avez abordé une plateforme avec vos données en open source qui favorise l'autofabrication, et donc où il y aurait des vidéos, des tutos. Est-ce qu'ils sont réalisés par une communauté, enfin, est-ce que c'est par des volontaires? Et si oui, comment on s'assure de la véracité de ces méthodes?
Alors, merci pour cette question. Donc déjà, les vidéos, oui, seraient réalisées par n'importe qui dans la communauté qui a envie de faire des tutos et de les partager à l'ensemble de la communauté. Après, pour ce qui est de la véracité, quand on fait une vidéo et qu'on montre ce qu'on est en train de faire, je pense que déjà, il y a certaines choses qui sont montrées. Et après, on pourrait pourquoi pas imaginer certaines personnes qui seraient pas comme des modérateurs, mais pourquoi pas, et qui pourraient accepter les vidéos avant qu'elles soient postées pour les regarder. Mais du coup, ça demanderait à d'autres personnes de participer encore, et ça empêcherait peut-être de partager librement le contenu qu'on souhaite.
Ouais, vous avez on a un exemple. C'est toujours une question, ça. Si on ouvre tout, est-ce qu'il n'y a pas des risques, qu'il y ait des problèmes, etc. Donc, nécessairement, il y aura certainement des contenus qui seront de plus ou moins bonne qualité. Mais encore une fois, on a l'excellent exemple de Wikipédia qui montre qu'une communauté ouverte avec des contributeurs, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'arrive pas à faire de la régulation, même s'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Mais merci bien. Donc, on a une seconde question de Nines. Si tu veux bien démarrer, je compléterai peut-être, selon ce que tu vas dire.
Du coup, encore une fois, merci pour votre présentation. Tout à l'heure, vous parliez de filaments alternatifs pour ce qui était de l'impression 3D, d'imprimer des pièces en bois. Et du coup, j'avais deux questions par rapport à ça. Le filament d'impression 3D, il coûte très peu cher. Est-ce que c'est aussi le cas pour le filament en composite de bois? Et est-ce que les pièces imprimées en bois seront aussi résistantes que les pièces plastiques?
Merci pour cette question, Nines. L'objectif des pièces de bois n'est pas donc de les imprimer en 3D, mais bien de les usiner en 3D, ce qui est plus simple quand même. Pour l'impression 3D seulement, ce serait des poudres qui sont plus connues, notamment pour le fer ou l'acier avec l'impression 3D. Donc là-dessus, ce n'est pas des procédés faciles. Pour usiner du bois, on ne le fait plus maintenant avec juste un outil coupant. Il faut des tours, des fraiseuses, etc. Concernant la force de ces éléments, il y a évidemment beaucoup de traitements de bois qui sont possibles, mais là aussi coûteuses et pas toujours dans la démarche low-tech. Donc c'est une question qui se pose. Après, l'objectif général de notre projet, qui est quelque chose qui est modulable et adaptable évidemment. Donc en fonction du lieu où est le microscope, ça peut être dans une serre où il y a des bactéries, ou comme j'ai dit précédemment, dans une industrie où il y a du latex, forcément on ne va pas mettre les mêmes pièces. Et concernant l'encre 3D, c'est ça qui était sur l'encre 3D un peu compliqué à avoir. On a parlé d'encre, le ciment, etc. Pour l'instant, c'est même pas commercialisé, donc c'est des études qu'on a faites, mais il n'y a pas de prix affiché, etc. Donc forcément, au début, ça a coûté un peu cher, mais c'est une étude qu'on a faite, en tout cas.
Je vous relance sur un complément un peu dans la même ligne. Question pas très facile, hein, je vous préviens. Mais Hugo vous demande également si, merci Hugo à distance, si les microscopes peuvent servir dans des pays économiquement moins favorisés aujourd'hui. Donc je crois que ça fait partie des objectifs de votre projet. Alors, Vous allez nous en dire un peu plus, hein, mais comme vous l'avez dit, à un moment, on pourrait arriver avec votre projet probablement à faire des choses low cost qui marchent bien, qui vont donc coûter moins cher, fonctionner dans d'autres pays, etc. Donc ça, vous allez pouvoir nous confirmer que c'est le cas. Et du coup, la question un peu plus compliquée, c'est est-ce que, donc évidemment, le cas où la low-techisation nous amène à des choses moins chères, faciles à produire, etc., bah, c'est plutôt chouette, on voit pas pourquoi ça se développerait pas. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu réducteur? C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'on ne devrait pas aussi rechercher des pistes de low-techisation? On l'a peut-être vu tout à l'heure avec la voiture, y compris dans des trajectoires où bah, justement, ça coûte pas moins cher, in fine, où c'est pas forcément aussi facile à déployer en l'état actuel de nos connaissances, etc. Et donc, de se permettre d'aller effectivement explorer des pistes en ingénierie qui sont pas aussi simples que de faire du moins cher et du facile à fabriquer. Ben voilà, je vous avais dit que c'était un peu plus dur.
Déjà, effectivement, le fait que ce soit moins cher et accessible dans des pays moins favorisés, c'était un objectif et quelque chose qui nous avait été demandé par notre suiveur. Du coup, c'est vrai qu'on s'est un peu axé là-dessus au niveau du low cost. C'est pour ça, on n'en a pas vraiment parlé là pendant la présentation, mais au niveau des matériaux, on pensait aussi à récupérer des matériaux de récupération et organiser des canaux de récupération justement pour que ça puisse coûter moins cher et que, par exemple, même dans des pays moins favorisés, on puisse, du fait que ce soit vraiment modulable, utiliser ce qu'on a à disposition, même si évidemment il y a quand même un minimum de pièces à avoir pour que ce soit utilisable de partout. Et après, au niveau du low cost et du moins cher, effectivement, on a vu si on utilise du bois, par exemple, c'est des études, on n'a pas encore tout ce qui est les prix. Et du coup, on ne sait pas encore combien ça va coûter, mais ce n'est pas forcément moins cher, effectivement.
Ok, merci à vous. Peut-être aller une dernière proposition. On a assisté également, vous avez cité le cours de Marie-Léonie Vergnery, donc qui était en lien avec le droit. On a assisté aussi à un cours de Mathieu Bricogne, à une contribution de Mathieu Bricogne sur la dimension industrie. Alors, dans votre projet s'y prête pas mal. On a parlé de perma-industrie et vous avez travaillé un petit peu ça dans votre projet. Je ne sais pas si vous avez juste un ou deux éléments à nous donner là-dessus. C'est-à-dire, un des intérêts peut-être aussi de votre démarche, c'est que au-delà de créer un exemple de ce type d'outil, eh bien, on pourrait imaginer effectivement une forme d'industrialisation, alors peut-être douce, d'où ce concept de perma-industrie qui permettrait quand même de la reproduire à une échelle assez importante. On l'a dit notamment pour pouvoir l'exporter dans plusieurs contextes. Et puis peut-être tout en essayant de contrôler quand même la façon dont c'est industrialisé. Je ne sais pas si vous voulez commenter un petit peu ça. Vous avez fait un travail spécifique là-dessus.
Je vous remercie de cette question et on remercie évidemment Mathieu Bricogne pour les super cours qu'il nous a fait et qui nous menait évidemment à cet outil perma-industrie. Donc dans cet outil, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a un peu démantelé notre microscope pour voir de quoi il était fait, comment ces choses-là étaient faites, donc aller vraiment au centre des choses, que ce soit les composants, l'assemblage, l'entretien, la réparation et la fin de vie. Donc effectivement prendre un point de vue d'industrialisation sur notre industrie et sur notre projet. On a vu qu'il y avait pas mal de tensions quand même entre industrialisation et low-techisation, mais dans notre projet particulièrement, c'est compliqué d'industrialiser la notion de prendre des choses de récupération, que ce soit des moteurs de scanner, des moteurs d'imprimante, cette fois-ci pas 3D. C'est des choses qu'on aimerait faire parce que produire des moteurs pas à pas, c'est pas tout à fait évident et puis ça demande pas mal de ressources. Donc c'est une idée qu'on a, essayer d'industrialiser ce recyclage. Et plus largement dans notre projet, on essaye de s'inscrire en fait dans une filière déjà de surcyclage, puisqu'on va avoir des imprimantes 3D qui sont déjà faites, des Ender, qui sont extrêmement répandues dans le monde. Et on va tourner ça en microscope de smart scanning, qui est quelque chose assez rare dans le monde et que l'Université d'Angers fait très bien. Donc on s'inscrit plutôt dans cette industrie-là du surcyclage.
Eh bien, merci à tous les deux. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot. Sinon, on va se saluer là. Donc, c'était la présentation par Inès et Hugo du projet Microscope Low-Tech. Donc, un projet réalisé dans le cadre du cours Low-Techisation numérique à l'UTC. On a vu avant le projet Small is Beautiful. Et on va voir d'ici quelques minutes le projet Notebook avec Nines et Barnabé, un ordinateur qui durerait 50 ans, à quoi ça ressemblerait, qu'est-ce que ça impliquerait. Voilà, on va se quitter avec Everybody Knows dans la version de The Special.
fingers crossed. Everybody knows that the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich dead rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like the father or the dog just died. Everybody's torn into their pockets. Everybody wants a box of chocolates. Discreet, but there's so many people.